Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, des mensonges commandités par... et bye-bye, la monarchie. Bonne écoute.
Des mensonges commandités par un texte d'Alexandre Sirois, paru le 14 mai 2023 dans la presse. Il y a tout près de 2 ans, Google a promis de prendre les grands moyens pour venir à bout des climato-sceptiques qui désinforment sciemment les utilisateurs de ces plateformes. L'entreprise a décidé d'interdire les publicités avec les contenus qui, contredisent le consensus scientifique bien établi autour de l'existence et des causes du changement climatique, y compris sur sa populaire plateforme YouTube. Le problème, c'est que c'était une promesse d'ivrogne. Un récent rapport, rédigé notamment par des organisations environnementales, signale que des publicités accompagnent encore des vidéos sur YouTube qui assimilent les changements climatiques à un canular. En somme, le géant du numérique continue d'inciter ses usagers à produire du contenu visant à désinformer l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. YouTube, ne l'oublions pas, partage les revenus des publicités avec les créateurs des vidéos qui y sont associés. Et ces usagers qui s'enrichissent avec ce contenu mensonger peuvent même, s'ils le souhaitent, utiliser l'argent ainsi obtenu pour propager encore plus de fausses informations. C'est scandaleux, mais en même temps, personne n'est tombé en bas de sa chaise en apprenant ça. Parce qu'on sait depuis longtemps qu'on ne peut pas faire confiance aux géants du numérique pour s'auto-réguler dans le but de limiter les tentatives de désinformation. Leur modèle économique repose sur l'engagement des utilisateurs, et au cœur du fonctionnement de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, on retrouve des contenus qui provoquent l'indignation, qui choquent, qui surprennent. Hélas, c'est très souvent le cas des fausses nouvelles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur ces plateformes, ces nouvelles se propagent plus rapidement que les vraies. Ajoutez à ça que les géants du numérique, contrairement aux médias traditionnels, ne font pas de l'intérêt public leur priorité, et vous obtenez la situation qui règne actuellement et qui perturbe le bon fonctionnement de nos démocraties libérales. Notez par ailleurs qu'on n'a peut-être encore rien vu. Les récents développements en intelligence artificielle sont renversants. Ils offrent de nombreux avantages, mais le côté obscur de cette révolution ne doit pas être occulté. Parmi les dommages collatéraux, on se rend déjà compte qu'il est de plus en plus difficile de départager le vrai du faux. Le robot conversationnel ChatGPT, par exemple, raconte souvent n'importe quoi de façon péremptoire. Il répond toujours à nos questions comme s'il nous disait la vérité, même lorsqu'il fabule. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs gouvernements en ont assez des ravages de la désinformation et cherchent activement des solutions. À Ottawa, on est en train d'élaborer un projet de loi sur la sécurité en ligne. On parlait en 2021 de haine en ligne lorsqu'une première consultation publique a été lancée au sujet de cette législation, mais on a élargi l'angle d'approche. On a formé en 2022 un groupe consultatif d'experts sur la question et l'une de leurs séances portait sur la désinformation. C'est bon signe. Le projet de loi devrait être rendu public sous peu. Il faut espérer qu'il fournira des pistes pour lutter contre la désinformation. La plupart des experts consultés par le gouvernement fédéral le souhaitent, d'ailleurs. Compte tenu de la gravité et de l'urgence des dommages causés par la désinformation, les experts ont fait valoir que la législation sur la sécurité en ligne devait prendre en compte la désinformation dans une certaine mesure, lit-on dans le résumé de la rencontre du groupe, co-présidé par le professeur Pierre Trudel, du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Ces experts ont fait valoir qu'en n'incluant pas la désinformation dans l'approche, le gouvernement indiquerait qu'elle est moins importante que d'autres préjudices, une notion avec laquelle les experts sont largement en désaccord, a-t-on précisé. Ils ont toutefois signalé, avec raison, que l'exercice serait délicat. La même mise en garde a été lancée en France l'an dernier par la commission présidée par le sociologue Gérald Bronner, spécialiste du complotisme. Si les élus à Ottawa légifèrent pour tenter de limiter la désinformation et nous estimons qu'il est urgent de le faire, ils devront être prudents. Il faut trouver un moyen de mieux encadrer les géants du web, mais il importe de prendre conscience des risques que ça peut poser pour certains droits fondamentaux, à commencer par la liberté d'expression. Le gouvernement ne doit pas, par exemple, tenter de décider de ce qui est vrai ou faux en ligne, comme l'ont fait remarquer les experts canadiens. En revanche, ces risques peuvent être mitigés, alors que les dangers pour la démocratie qui découleraient du statu quo, eux, ne sont pas en voie de se résorber. Dans le contexte actuel, ils risquent fort, si nos élus n'agissent pas rapidement, de s'intensifier. C'était « Des mensonges commandités par » un texte d'Alexandre Sirois, paru le 14 mai 2023 dans la presse.
Bye bye la monarchie, un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 4 mai 2023 dans la presse. Kingston. Le roi d'Angleterre? Non merci. Si la tendance se maintient, la Jamaïque pourrait être le prochain pays du Commonwealth à rompre ses liens avec la monarchie. Alors que Charles III s'apprête à être couronné, la presse s'est rendue à Kingston pour prendre le pouls de la population qui sera consultée sur la question dans un avenir rapproché. Pour l'instant, l'affaire est loin de faire consensus. Mais des campagnes sont en branle pour informer et possiblement convaincre la population. Un Canadien est même impliqué dans le processus. L'adieu au roi. Le couronnement de Charles III est diffusé samedi le 6 mai dans le monde entier devant des millions de téléspectateurs. Mais il aura une résonance particulière en Jamaïque, où l'on songe très sérieusement à se débarrasser du roi. La Jamaïque pourrait en effet devenir le prochain État du Commonwealth à en finir avec la monarchie constitutionnelle pour devenir une république, suivant ainsi l'exemple de la Barbade, qui a fait le saut en 2021. Si tout se passe comme prévu, le gouverneur général, représentant du roi comme au Canada, sera remplacé par un président d'ici les prochaines élections législatives en 2025. Ce n'est pas la première fois que l'île des Caraïbes rêve de république. Des pas ont été faits en ce sens depuis l'indépendance du pays en 1962, sans toutefois aboutir. Mais cette petite musique n'a cessé de prendre de l'ampleur au point de se transformer en un gros sound system de plus en plus sonore. Signe d'une véritable prise en main, un ministère consacré à la transition républicaine a été mis sur pied au début de 2022, de même qu'un comité de réforme constitutionnelle, CRC, chargé de conseiller le gouvernement dans ce processus. Cette entité transpartisane, qui comprend des juristes, des politiques de toutes allégeances et même un expert canadien, sera en outre chargé d'éduquer la population par diverses campagnes de sensibilisation, car ultimement, les Jamaïcains devront trancher la question par voie de référendum. En d'autres mots, le train est sur les rails et il bouge. Ça fait assez longtemps qu'on en parle. Il est temps de dire « casser, c'est assez », résume Laleta Davis-Matisse, avocate générale de l'Université des West Indies à Kingston et membre du CRC. Pour cette juriste reconnue, l'affaire est même assez urgente. Dans l'eau que nous buvons. Pourquoi maintenant et pas avant? Parce que le fruit est mûr. Il y a dans la population jamaïcaine, à 92% afrodescendante, un ressentiment diffus à l'endroit de la couronne, jugée responsable de son asservissement, de ses souffrances et de sa pauvreté. Pour beaucoup, couper les liens avec la monarchie serait une façon de se libérer des derniers fantômes du passé et d'achever le processus d'émancipation entamé avec l'abolition de l'esclavage en 1838. L'actualité des dernières années n'a fait qu'accélérer cette réflexion décoloniale. D'abord, le scandale Windrush, en 2018, où des centaines de Britanniques d'origine caribéenne sont détenus ou, dans certains cas, renvoyés dans leur pays d'origine, car déclarés illégaux, malgré des promesses contraires faites par Londres. Insulte supplémentaire, depuis 2003, un visa est exigé des Jamaïcains qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni. Une aberration, considérant que la reine est sur leur passeport. 2 ans plus tard, l'ampleur prise par le mouvement Black Lives Matter accentue le désir de divorce. On découvre dans la foulée que le gouverneur général de la Jamaïque possède une médaille offerte par la reine sur laquelle est représenté un ange blanc, le pied sur la gorge d'un démon noir. Le parallèle avec George Floyd est troublant. La visite de Kate et William en mars 2022 perpétue le malaise. Non seulement le couple est reçu dans un faste colonial digne des années 1930, mais le prince ne livre pas les excuses espérées, se contentant d'exprimer son profond chagrin pour les erreurs du passé. La mort de la reine, en septembre dernier, boucle la boucle. Avec la disparition de cette figure emblématique, la Jamaïque perd un de ses derniers liens émotifs avec la monarchie britannique et se met à envisager plus que jamais de tourner la page. Si la Barbade le fait, pourquoi pas nous? C'est un désir qui dort dans l'eau que nous buvons, résume l'avocate Danielle Archer, membre du groupe Advocates Network, qui milite pour la République. Il y a cette impression de plus en plus forte que cette situation est absolument inacceptable. Dans mon esprit, un roi doit avoir les intérêts de ses sujets à cœur. Or, je ne vois pas quel intérêt la Jamaïque a pour le roi, à part le fait d'être un vestige colonial. Des jeunes garçons entrent dans des gangs. La criminalité est un enjeu. Les Jamaïcains ont de la difficulté à payer leur loyer. Je ne pense pas qu'ils se sentent concernés par ces sujets. Sur son élan, Mme Archer admet qu'elle n'a aucune intention de suivre le couronnement de samedi et qu'elle aimerait mieux regarder les dessins animés. Des questions de fond. À l'heure actuelle, le projet de réforme constitutionnelle est surtout porté par les universitaires, les politiciens et une certaine élite cultivée issue de la société civile. Mais ce processus commence lentement à infuser dans la population. de plus en plus de rencontres publiques sont organisées pour expliquer les enjeux aux Jamaïcains de la rue, qui connaissent peu des concepts qui parfois les dépassent, à commencer par l'exercice du référendum, auquel ils n'ont été soumis qu'une seule fois, en 1961, concernant l'appartenance à la Fédération des Indes occidentales. C'est très important que les gens soient informés et comprennent, parce qu'à la fin, ce sont eux qui prendront la décision. Selon Mme Davis-Matisse, l'échéance de 2025 est toujours envisageable, mais de nombreuses questions sont encore en suspens quant aux grandes lignes de la nouvelle Constitution qui ne se limitera pas à la seule question du passage à la République. Le président sera-t-il élu par le peuple ou nommé par le Premier ministre? Le CRC a déjà proposé la deuxième option. Faut-il conserver le Conseil privé, à Londres, comme cour d'appel finale, réputée plus neutre mais plus coûteuse et moins sensible à la réalité jamaïcaine, ou se replier sur la Cour de justice des Caraïbes, établie à Trinité? Quid de la question de l'accès aux plages, du rétablissement de la peine de mort, des droits des LGBTQ? Faut-il reconnaître les Autochtones comme peuple fondateur? Le patois, créole jamaïcain, comme deuxième langue officielle? C'est pour certains l'occasion d'une grande redéfinition, non seulement du système politique, mais aussi des valeurs nationales, qui seraient écrites pour et par les Jamaïcains. Il ne s'agit pas seulement de se défaire du roi comme chef de l'État, résume l'économiste et animatrice de radio Rosalea Hamilton, membre en vue de l'Advocates Network. Il faut aller plus loin et en profiter pour approfondir notre démocratie. Notre système de gouvernance est actuellement beaucoup trop centralisé. Il faut viser une démocratie plus participative, dans laquelle le peuple aurait son mot à dire. C'est la seule façon, à mon sens, de lui rendre son entière souveraineté. Vous écoutez « Bye bye la monarchie », un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 4 mai 2023 dans La Presse. Dans tous les cas, ne rien précipiter. Si l'échéance approche, les enjeux sont trop grands pour que le processus soit expédié. Quitte à repousser certains dossiers, voire carrément le référendum sur la République. Notre comité a un calendrier, admet Laleta Davis-Matisse. Mais si vous me demandez si c'est important de prendre son temps pour débattre et s'assurer que tout le monde comprenne ce qu'il fait, je vous répondrai oui. Ce processus est plus important qu'un agenda. Il ne faut surtout pas le compromettre parce que nous voulons respecter un échéancier. Si on doit prolonger notre réflexion, on le fera. On ne peut pas se permettre d'échouer. 3 millions, population de la Jamaïque. La Jamaïque en 10 dates. 1494, Christophe Colomb découvre la Jamaïque, alors habitée par les Taïnos, le peuple premier de l'île. 1509, la Jamaïque est occupée par l'Espagne. La majorité de la population Taïno est décimée, tandis que les premiers esclaves d'Afrique sont amenés pour travailler sur les plantations de sucre. 1670, la Jamaïque est officiellement cédée aux Britanniques en vertu du traité de Madrid. 1838, l'esclavage est aboli. 1865, une rébellion d'anciens esclaves est réprimée par l'armée britannique. La Jamaïque devient une colonie de la couronne. D'autres émeutes raciales auront lieu en 1938, pour protester contre les abus et les conditions de travail. 1914, le militant Marcus Garvey fonde l'Universal Negro Improvement Association and African Communities League, UNIA-ACL. Cette organisation panafricaniste a toujours une antenne à Montréal. 1962, la Jamaïque accède à l'indépendance, mais demeure dans le Commonwealth. Alexander Bustamante du Jamaica Labour Party, JLP, centre-droit, devient le tout premier premier ministre de l'histoire du pays. 1972. Élection de Michael Manley du People's National Party, PNP, centre-gauche, fils du père de l'indépendance Norman Manley. Début d'un virage socialiste pour le pays. L'expérience durera 8 ans. 2003. Le Royaume-Uni impose le visa aux Jamaïcains qui arrivent à Londres pour bloquer l'immigration illégale. 2022. La ministre des Affaires légales et constitutionnelles, Marlène Malaou-Forté, déclare que la transition vers la République sera conclue avant les prochaines élections prévues en 2025. L'appui à cette idée grandit avec la mort d'Élisabeth II. Yes or no? On ne sait pas encore comment sera formulée la question, mais on sait qu'en vertu de la Constitution jamaïcaine, il faut un référendum pour couper les liens avec la monarchie britannique. La presse s'est promenée dans les rues de Kingston pour savoir qui voterait oui ou non à la République. Certains veulent rester collés sur Londres, d'autres en finir avec ce vieux symbole synonyme de souffrance. Mon business à moi. Ça changera quoi pour nous? Quel bénéfice! La pauvreté amène le crime, la pauvreté nous tue. La moitié du pays a émigré. Moi-même, je veux aller au Canada. Cette histoire de république, c'est pour les riches. Personnellement, rien à foutre. C'est le business des politiciens. Moi, mon business, c'est de vendre des poissons. Tina Noble. Hors de la boucle. On nous vend une illusion de démocratie. Si on devient une république, les politiciens vont en profiter pour contourner les lois et les oligarques de Jamaïque pourront faire ce qu'ils veulent. Encore une fois, les pauvres vont rester en dehors de la boucle. Même pour le symbole, je ne suis pas convaincue. On parle de décoloniser, d'un meilleur avenir. Mais le nouvel ordre mondial, c'est l'esclavage du 21e siècle. Kush Rasta. Devenir comme Haïti. La Jamaïque est un pays corrompu. Sans la monarchie au-dessus de nous, les politiciens vont faire ce qu'ils veulent. Ils parlent déjà de ramener la peine de mort. Avec la reine, au moins, on avait un rempart contre ça. Torrell Chandler. Encore plus de corruption et plus de privilèges pour les gangsters. On va devenir comme Haïti. Cela dit, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Pourquoi un pays qui s'est libéré de l'esclavage devrait-il garder des liens avec la monarchie? Pour moi, ça n'a pas de sens. Cadou Mullings. Pas maintenant. D'après moi, le pays n'est pas prêt. L'économie doit se développer plus. La gouvernance doit être nettoyée. Il y a trop de corruption, trop de crimes, trop d'hypocrisie et de politique dans le système judiciaire. Il faut régler tout ça avant de passer à autre chose. La République peut aider, mais pas maintenant. Colin Jones. Je suis d'accord, mais il y aurait quand même de bons côtés. Si on se débarrasse du conseil privé, cour d'appel ultime pour la Jamaïque située à Londres, on n'aura plus besoin de se tourner vers l'Angleterre pour les causes importantes. Malik Mullings. Redevenir une colonie. Gardons le roi. C'est notre seule chance de redevenir un jour une colonie britannique. Je ne blague pas. C'était beaucoup mieux avant. Quand j'étais petit, personne n'avait faim en Jamaïque. Tout le monde mangeait à sa faim. Maintenant, il y a trop de corruption. Le tourisme explose, mais nos politiciens volent l'argent. Ce pays devrait être prospère. On ne devrait pas avoir toute cette pauvreté. Colin Brown.
Ouais, la République ne va rien arranger.
Ça va même empirer, parce qu'on n'aura plus personne pour nous encadrer.
Franklin Rutherford. Se défaire des béquilles. La monarchie nous empêche de voler de nos propres ailes. C'est une béquille. On peut marcher sans. Dwayne Wilson.
Moi, je suis déchirée entre les deux. Les gens disent que la monarchie n'est que symbolique. Mais ce sont les gens qui nous ont mis en esclavage. Pourquoi les garder au-dessus de nous? Maintenant, je me pose des questions sur le plan économique. Est-ce qu'il y aura des impacts? Est-ce qu'on va y perdre? Ça me fait douter.
Cathy McFarlane.
Pour entendre la suite de Bye Bye la monarchie, veuillez rester à l'écoute puisque On lit pour vous continue après la pause. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Lynn Lamarche à la lecture, Francine Thériault et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.